Espace d'une tectonique des plaques.
Une émission mensuelle de Dominique Demichel, Olivier Lostis et Gabriel Seban.
Une émission qui s'offre à vous pour explorer l'invisible des cohérences.
Et des incohérences.
Là où elles ont matière à trouver leur place.
Une émission qui va vous poser questions, sans se vouloir experte.
Surtout quand des lieux communs vous sont assénés.
Colonne vertébrale, si ça se trouve.
Qui vous laisse toute votre tête.
Oui, vraiment.
Sans vous laisser intact, bien sûr.
Une émission au sens non interdit.
Sens moral, bien sûr.
Bon, si on commençait à changer le monde, les amis.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors la dernière fois, on s'était un petit peu intéressé à l'intériorité, le rapport à la loi par l'individu replié ou rebasculé sur lui-même. Alors, il y a une autre perspective, c'est de regarder effectivement la loi, mais sous l'angle plus social, sous un angle du coup d'obéissance au sein d'un groupe, ou sous la perspective d'une connaissance d'un milieu dans lequel cette loi, elle se développe, elle se déploie, elle a matière à exister. Alors, je vous propose qu'on parte sur cette logique-là, et puis qu'on voie où on aboutit. Alors, on a parlé initialement d'un sacrifice possible pour la personne de se conformer vis-à-vis de ce qu'elle trouvait juste, elle, par rapport à ce que l'environnement lui proposait à travers la loi. Est-ce que la loi, finalement, moi, c'est la question que je me pose, est-ce que la loi impose finalement une obéissance qui aurait d'une certaine manière à voir avec l'obligation d'une conformité.
Moi, dans mon ressenti, il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. Hein. Il y a l'idée de la loi qui, nul n'est censé ignorer la loi. Non seulement il est censé ne pas l'ignorer, mais il est censé la respecter. Donc, l'obéissance à la loi, ça n'est pas facultative. Quand on entend la loi dans sa dimension essentiellement sociale, dans le rapport entre les gens, dans le rapport au monde, dans le rapport aux autres, même dans le rapport à soi-même, on sait que la loi, ça n'est en effet pas du tout facultatif. Il faut y obéir. Il faut y obéir, même si dans certaines circonstances, on en a parlé à la dernière émission, on a l'impression que cette loi, elle est discutable, voire qu'elle n'est pas pratique, voire qu'elle est inapplicable, voire de temps en temps qu'elle est contre-productive. Hein. Ça peut arriver. On doit obéir à la loi.
Juste une petite parenthèse, dans le genre inapplicable, je conseille les auditeurs à relire la Déclaration des droits de l'homme, qui est une forme de législation du bien-être, non pas au sens conforme, mais au sens comportement, de ce qui serait effectivement la loi des lois, et de voir effectivement la difficulté qu'il y a de pouvoir aujourd'hui appliquer certains articles. C'était une parenthèse.
Oui, justement, du côté de la loi des lois, c'est Dominique, surtout qui en parlait la dernière fois, la loi des lois, ça serait la loi symbolique, c'est-à-dire la loi intériorisée. Et le problème, tu le disais aussi, Dominique, hein, c'est que bah, cette loi est plus ou moins bien intériorisée, voire parfois pas bien du tout, même si elle est intériorisée. On peut, dans notre propre organisation intérieure, justement, y déroger tout en le sachant et en payant éventuellement le prix de la culpabilité, plus ou moins fort, fortement. Mais bon, ça c'est une chose. Après, la question de l'obéissance à la loi, je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça par rapport à la loi intérieure. Quoi. Même si on fait référence à un surmoi ou des choses comme ça, ce n'est pas vraiment comme ça. On n'obéit pas à soi-même, au fond, je ne crois pas. La question de l'obéissance, elle se pose toujours par rapport à quelque chose qui est partagé, donc qui est extérieur.
C'est la loi extérieure. C'est dans ce sens-là. Hein, c'est voilà, l'objet de cet échange qu'on a aujourd'hui. Là.
Et du coup, c'est un peu comme si, d'une certaine façon, pour la rendre plus efficace, pour la rendre partagée, cette loi symbolique, cette loi intérieure, eh bien, on se mettait à l'écrire, à la rédiger, à en faire du législatif. Et la question, c'est que justement... Nos intériorités, sans doute, se rejoignent parfois, mais pas toujours. Et que lorsqu'on passe à l'écriture de la loi, il me semble qu'on est dans un autre type de construction, qui est donc une construction sociale, et qui nécessairement va aller du côté d'un compromis. Et avec des compromis, là aussi, qu'on va partager plus ou moins. Néanmoins, une fois que la loi est écrite, on est censé effectivement la respecter. Quand bien même on ne partagerait pas son articulation, quoi. Par exemple, pensez concrètement à ce qui s'est passé il y a donc, je sais pas, quelques années, une dizaine d'années plutôt, à propos de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, enfin dans certains lieux publics. Il y en avait d'autres, c'était déjà interdit depuis longtemps, mais notamment dans les bars. Ça a provoqué beaucoup de réactions très négatives au départ, en tout cas aujourd'hui apparemment c'est très bien respecté, et entré dans les mœurs. Mais au départ, il y avait de féroces oppositions à ce qu'il y ait l'interdiction totale de fumer dans les restaurants et les bars. Bon. Voilà, donc une loi écrite suscite aussi ça, ce qui est un petit peu nouveau par rapport, assez différent par rapport à la question d'intériorité, la loi symbolique qu'on intériorisait plus ou moins bien, dont on parlait lors de la précédente émission.
Mais alors ça veut dire, Olivier, que toi tu vois à travers ça, est-ce que, c'est ma question plutôt qu'une affirmation, est-ce que tu vois à travers ça une faillite de l'utopie rousseauiste, c'est-à-dire que l'homme, on peut pas lui faire confiance plus que la nature ne le souhaiterait, et que son caractère social lui imposerait effectivement d'être canalisé.
D'abord, Rousseau n'abandonne pas la référence à Dieu, hein, pour le coup. Donc c'est très différent. Et Rousseau parle quand même de la dimension contractuelle, c'est-à-dire de cet ajustement des personnes. Social, voilà. L'ajustement des personnes. Et c'est dans une dimension utopique, parce qu'il fait référence à une raison absolue, c'est-à-dire à une loi absolue qui a cette dimension de vérité. Or, dans le domaine législatif, je ne crois pas qu'on ait cette dimension de vérité. On a cette dimension de majorité, plutôt. De bien commun, de recherche du bien commun, bien sûr. Et avec des votes par les représentants du peuple qui sont des votes majoritaires. C'est-à-dire que la minorité ne partage pas ce qui est écrit. Pour autant, elle va être contrainte par la loi tout autant, enfin théoriquement.
Moi, je trouve que il y a plein de choses qui me viennent là. Je trouve que l'exemple du tabac, moi j'aime bien qu'on parle d'exemple. Hein, parce qu'on parle d'exemple, ça nous permet à tous de nous faire une sorte de représentation. Dans l'histoire du tabac, qu'est-ce qu'on peut raconter ? On peut raconter d'abord que la découverte de la toxicité majeure du tabac sur la vie humaine, elle est relativement récente, et on sait bien que là, les lobbies du tabac ont tout fait pour camoufler la dangerosité. Donc, dans cette loi, on pourrait dire, il y avait une sorte de tension entre deux libertés, on pourrait dire, une liberté individuelle, j'ai le droit de fumer, et puis une liberté collective, c'est-à-dire j'ai le droit de revendiquer de ne pas être exposé à un produit qui est toxique et qui met en jeu ma vie. Donc on voit bien ici que la loi, elle a choisi, c'est-à-dire la loi collective, on pourrait dire, il me semble, le contrat social, a choisi de privilégier la loi collective au nom de critères qui, quand même, a posteriori, paraissent absolument évidents. C'est-à-dire, madame, monsieur, vous fumez, vous avez le droit de vous suicider à petite vitesse parce que le suicide n'est pas interdit par la loi, parce qu'au fond, ça revient à ça. Malgré ça, si jamais vous êtes malade, on prendra en charge les soins qui sont inhérents à ce suicide-là. Mais nous décidons que sur le plan collectif, à chaque fois qu'il y a un danger pour ce collectif, il ne vous est pas autorisé d'exercer votre liberté individuelle. C'est-à-dire, on voit ici que la liberté du collectif écrase la liberté individuelle. Hein? Donc, je crois que là, par rapport à ce que tu disais, Gabriel, on voit déjà une première tension, puisque tu parlais d'obéissance. Mmh. Eh bien, au fond, il y aurait là une sorte d'obéissance qui ne serait pas liée à la nature même de la loi. C'est-à-dire, on obéit à la loi, point, ça n'est pas discutable. Mais on accepte la loi parce qu'il y a un argumentaire qui dit que l'intérêt collectif prévaut sur la liberté individuelle. Donc on voit bien ici, là, quand même, que la loi a sa légitimité. Et ça rejoint le deuxième point que tu as exprimé tout à l'heure et que j'ai envie de redire, où tu disais il y a quelque chose qui tourne autour de la connaissance. Et il me semble que là, on voit bien que là, la connaissance était importante, puisqu'au fond, qu'est-ce qu'a apporté la connaissance ? Le tabac, c'est toxique pour la santé. Voilà.
Alors, moi, ça me fait réagir de deux façons. La première, c'est par une question encore. Moi, je suis, contrairement à ce que vous attendez peut-être un petit peu de moi, mais j'ai besoin de m'interroger pour pouvoir faire le point. La première question, c'est en fait, comment se fait-il qu'entre le moment où la connaissance du malfait du tabac est apparue et le moment où la loi a été instituée, comment se fait-il qu'il y ait eu tant de temps de passé ? Ça, c'est une première chose. Donc, c'est une question qui porte sur un plan, je dirais, du pouvoir et voire même de la domination, à la limite. Hein, et deuxième axe qui me serait utile de savoir, c'est à partir du moment où le tabac est un, comment dire, est repéré comme étant nocif, qu'est-ce qui émane du groupe humain via ce pouvoir, via le pouvoir qui décide, pour lui faire adopter la démarche d'aller contre certains intérêts.
Oui, ça c'est une grande question, et puis je trouve qu'elle rejoint, Dominique, ce que tu disais aussi, parce que quand toi, Gabriel, tu dis pouvoir, etc., je pense qu'il y a peut-être à rappeler aussi la question de la connaissance. C'est plutôt une loi assez positive, au fond. D'ailleurs,
tout à fait.
Pour ce qui est de la cigarette, de fumer, en fait, on voit à quel point elle est très bien respectée et même admise par à peu près, je crois, tout le monde maintenant. De manière en tout cas très 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 très, très générale, parce que on sait effectivement que la loi protège la santé et que cette question de la santé est sans doute supérieure à la liberté individuelle de prendre un plaisir, se suicider, tu disais, mais pour les gens qui fument, ça peut être juste un moment de plaisir, même si c'est un plaisir qui peut être dangereux, mais enfin, il y en a d'autres, des plaisirs dangereux.
Non, pas qui peut être dangereux, qui est dangereux.
Oui, oui, comme il y en a plein d'autres, hein, les sports extrêmes, etc. Ouais, enfin, ouais. C'est des conduites qui sont des conduites à risque, bien sûr. Mmh. Mais et qui participent sans doute du plaisir procuré. Le risque n'est certainement pas... Bon. Mais ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, on voit bien qu'à un moment, il y a des rapports sociaux, des rapports effectivement de pouvoir, peut-être pas de domination, mais en tout cas des compromis qui vont être construits parce qu'il y a des pressions diverses, des concurrences entre des libertés, en l'occurrence, pour cette loi-là.
Gabriel, là, tu posais une question. Mais toi, tu avais une petite idée quand même. Donc par rapport à cette question de l'écart, on a pris l'exemple du tabac, mais on pourrait prendre l'exemple du glyphosate, hein, c'est-à-dire avec le Roundup. On pourrait prendre l'exemple des perturbateurs endocriniens, où on a envie de s'interroger en se disant, qu'est-ce qu'il en est du côté du rapport entre un intérêt collectif et un intérêt financier, on pourrait dire, parce que quand même, vraisemblablement, cet ordre-là.
Voilà.
Donc du coup, toi, par rapport à ça, t'en dirais quoi ?
Eh bien, moi, ce que j'en dis, c'est qu'à un moment donné, l'équilibre, finalement, qui pèse à travers les médias, à travers l'opinion publique, mais qui est matérialisée par je ne sais quelle expression collective, du coup, si ce n'est par les médias, mais comment se traduit-elle en volonté, fait peser finalement le plateau de la balance vers un recul de l'importance économique que le produit, en l'occurrence ici le tabac, pouvait avoir. Et ce recul, même s'il est coûteux pour l'entreprise qui met ce produit sur le marché, même si c'est coûteux pour elle, elle doit effectivement se plier à un pouvoir supérieur à elle et qui est convergent dans la nécessité du bien public, à la fois pour les raisons de santé publique, mais aussi à la fois pour des raisons, je dirais, de coût de sécurité sociale, tout simplement.
Oui, oui, oui. Alors, je trouve que moi, dans ce que j'entends de ce que tu es en train de dire, c'est comment la loi gère des tensions contradictoires à l'intérieur de sa finalité. C'est-à-dire, je me souviens très bien, il y a extrêmement longtemps, j'ai un de mes beaux-frères qui a failli travailler chez l'industrie du tabac, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, enfin bon, peu importe. Et je me souviens d'une discussion avec lui, peut-être c'était il y a 30 ans.
La CEITA, non ?
Voilà, la CEITA, voilà. Et je lui avais dit, attends, tu ne vas quand même pas aller travailler dans un truc comme ça qui... voilà, lui c'est un informaticien, rien à voir avec direct. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas aller travailler dans un truc comme ça, sur le plan moral. Voilà, et donc je faisais au fond appel à une sorte d'intériorisation d'une loi en lui disant, moralement, tu ne peux pas faire ça. Alors... Moi, je trouve que j'ai envie de rajouter, toujours pour donner des exemples, j'ai envie de dire aussi qu'on voit bien combien des tas de grandes sociétés, sans les nommer, tout le monde les connaît, qui se débrouillent pour aller payer leurs impôts que dans les endroits où on en paye le moins possible. Donc là, on voit bien aussi la loi, et je trouve qu'on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui, au fond, freine les gouvernements ? Encore que là, il me semble, là, on est au mois de juin 2017, il y a un projet qui est en cours là pour uniformiser justement un petit peu les fiscalités. Mais qu'est-ce qui fait que cette loi-là ne peut pas s'appliquer ? Et je trouve qu'on voit là l'idée que dans l'application d'une loi, il y a toujours une tension contradictoire, c'est-à-dire un enjeu éthique entre des impératifs qui sont valables. Voilà, on dit... On arrête de fabriquer du tabac en France. La CEITA, je ne sais pas si ça existe encore, mais mettons que ça existe. Il y a 30 000 personnes. Eh bien, il y a 30 000 personnes qui vont être au chômage. Hein? Voilà. Donc, il va y avoir des gens qui... Donc, je trouve que ce qui me semble intéressant dans notre petite discussion aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, l'émergence... il y aurait une sorte de loi symbolique donc qui pourrait paraître comme relativement simple. Et qui serait basé sur l'intérêt collectif plus l'intérêt individuel, plus une certaine forme de morale, le tout étant profondément intériorisé. Voilà. Et puis ensuite, il y a la loi pratique. Et la loi pratique, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué.
Oui, et puis en plus, ce que tu dis, ce à quoi tu fais référence là, quand même, à chaque fois, sur tous les exemples de nuisances, sont des exemples de nuisances sur la santé.
Bon.
Ouais. Ça veut dire que derrière, il peut y avoir...
Normal, c'est mon métier un peu.
Mais quand même, derrière, il y a une position morale que tu signales et qui est juste, parce que la morale est effectivement ce qui préside à la construction des lois en général. Si elle succède à une discussion éthique, etc., tout ça est très bien, mais avec une vraie facilité, entre guillemets, dans ces cas-là, qui est que finalement, il y a un savoir, donc on revient à la question de la connaissance dont tu parlais, Gabriel, il y a un savoir qui est là et qui indique la dangerosité des produits concernés. Et ce savoir, cette connaissance-là, tient lieu en quelque sorte de vérité. On revient à la question de la vérité détenue par Dieu, du côté de la loi symbolique, etc., dont on a parlé la dernière fois. Mais là, pour le coup, ce savoir tient lieu d'une vérité. Donc, de quelque chose, d'un socle extrêmement solide, qui paraît quand même assez incontestable. Maintenant que les lobbies, par exemple, du tabac ont perdu la partie en essayant de faire croire que finalement le tabac, c'était pas très dangereux, quoi. Bon.
Dans le domaine de la santé, je redonne encore deux exemples, toujours pour illustrer. Deux exemples. Pendant très longtemps, lorsque les femmes étaient ménopausées, c'est-à-dire elles n'avaient plus leurs règles, on leur a proposé un traitement hormonal substitutif. C'est-à-dire elles prenaient en gros la même chose que quand elles n'étaient pas ménopausées, c'est-à-dire elles avalaient des estrogènes et de la progestérone. On a vu une augmentation de la prévalence, c'est-à-dire de l'incidence, c'est-à-dire du nombre, en gros, pour faire parler simplement, du nombre de cancers du sein. Et depuis que, ça fait à peu près une dizaine d'années, depuis qu'on ne donne plus de traitement hormonal substitutif à ces femmes, on a observé une régression, c'est-à-dire une diminution du nombre de cas de cancer du sein. Donc on voit que, voilà. Deuxième exemple, tout ça parce que je trouve que c'est important pour sentir ça. Toujours dans le domaine de la santé, bah, normal, je suis médecin, c'est un domaine que je connais un petit peu moins mal que les autres domaines. Pour les pilules. Les pilules, il y a énormément de femmes qui prennent des pilules. Il y a eu des pilules de troisième génération, qu'on dit de troisième génération, avec des nouveaux progestatifs. L'estrogène qui est dans la pilule, c'est de l'éthinyl, de l'estradiol, dans toutes les pilules, c'est le même. Ces pilules de troisième génération, qui étaient nouvelles, qui ont été vendues, marketing au maximum, etc., on s'est aperçu qu'elles donnaient plus de phlébite et donc de risque d'embolie pulmonaire. Il a fallu du temps afin que ça soit mis sur le marché, et maintenant on est revenu aux pilules dites de deuxième génération, avec un seul progestatif, c'est toujours le même, il s'appelle le lévonorgestrel, et on l'utilise maintenant. Les pilules, elles ont pratiquement tous le même, à une toute petite nuance près, toute la même composition de l'éthinyl estradiol et du lévonorgestrel. Là, vous voyez, on est aussi dans une observation, c'est toujours dans le domaine de la connaissance, hein, dont tu parlais, Gabriel. Et ensuite, une loi qui va être une loi intériorisée par les prescripteurs pour donner des pilules de deuxième génération.
Alors, puisqu'on est dans le domaine de la santé, moi, il y a une question que je me pose, c'est à partir du moment où effectivement les choses restent en tension, mais sont, comme vous le soulignez, éclaircies par la connaissance, qui devient un levier d'évolution ou d'action, comment interpréter finalement que le pouvoir, qui est maître de la loi, justifie finalement de sa non-responsabilité par rapport à des mises sur le marché qui s'avèrent, qui se sont avérées indiscutablement très problématiques sur le plan des catastrophes qu'elles ont générées.
Je crois que souvent, lorsque ça a été le cas, soit l'argument est de dire bah on le savait pas et on ne l'a su qu'après, soit si ça avait été connu avant, il y a eu des soucis tout de même et des responsabilités qui ont été établies. Bon, mais il y a un autre cas. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un autre cas, parce que justement là on est dans un cadre, encore une fois, où il y a ce socle scientifique, des choses très certaines, enfin la fréquence des cancers ou pas, par exemple, c'est quelque chose d'assez tangible, on peut expérimentalement prouver quand même un certain nombre de choses. Bon. Mais si on prend l'exemple, celui de l'état d'urgence. Mm-hmm. Bon, état d'urgence, il y a des gens qui disent il faut pas le maintenir, des gens qui disent il faut le maintenir, et puis il y a des gens qui disent non, faut pas le maintenir, mais il faut intégrer dans la loi normale les dispositions d'exception. Bon. Comment on ne peut absolument pas déterminer là un champ de connaissances, un champ de savoir qui est avéré. C'est-à-dire qu'au départ, on a le même conflit entre des libertés ou des, en tout cas des points très importants auxquels nous tenons tous, c'est-à-dire la sécurité d'une part de chacun, ou de nos enfants, nos proches, contre la liberté, par exemple, de circuler, bon, plein de choses comme ça. Donc on peut opposer des valeurs comme ça. Il n'y a pas de vérité absolue parce que ce sont des valeurs hétérogènes. On ne peut pas les comparer strictement entre elles. Ce ne sont pas des choses. On ne peut pas dire liberté de ceci d'un côté, liberté de cela de l'autre. Non, là, il y a sécurité et liberté. Elles ne sont pas commensurables, vraiment, quoi. Et du coup, on ne peut pas non plus imaginer. Enfin, c'est difficile. Une connaissance établie, avérée, qui donnerait raison à l'un ou l'autre des camps. Donc là, la loi qui finit par être écrite à un moment, qu'elle soit celle de l'état d'urgence, qu'elle soit celle d'une intégration dans la loi générale de dispositions d'exception liées au terrorisme, ou qu'elle soit ou qu'on opte pour une situation où on sort de l'état d'urgence, point barre, et on revient au régime antérieur, bref, rien de véritable, rien d'une connaissance avérée, une connaissance tenant lieu de vérité, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment face à une situation de compromis, comme je dis, de construction, de rapport de pouvoir, peut-être, enfin en tout cas d'une décision qui finalement ne peut pas reposer sur une connaissance. C'est plus compliqué, quoi.
Chers auditeurs, un tout petit point d'ancrage pour vous arriver à suivre. De quoi ils sont en train de discuter ces trois-là ? Je reprends un petit peu le point pour que vous raccrochiez comme ça, que vous laissiez un tout petit peu votre vaisselle, que vous attendiez un petit peu pour le repassage et que vous repreniez en route. On a discuté en disant il y a d'abord une loi intérieure, une loi symbolique. Celle-là, dans la grande majorité des cas, elle est relativement évidente. Ensuite, on a dit comment la loi s'applique dans la réalité, c'est-à-dire en gros comment on fait les lois, là avec un petit L, pas la grande loi symbolique. Et là, on a vu, il me semble jusqu'à maintenant, que de temps en temps, c'était évident, il y a un sens interdit, on n'a pas le droit de prendre le sens interdit. On a vu que de temps en temps, on l'a dit à demi-mot, qu'il y avait des gros sous, qu'il y avait des lobbies, etc., version Mediator, par exemple. Et là, on est en train d'aborder un troisième sujet plus compliqué. Je remets un tout petit peu ça pour que chacun s'y reprenne. On est en train de voir que de temps en temps, finalement, la loi symbolique, elle nous invite à quelque chose, c'est-à-dire on ne va pas dire aux terroristes « mais si, la vie est belle, arrêtez vos petits trucs comme ça, il faut se défendre ». De l'autre côté, on dit « oui, mais on ne va pas mettre de la police partout et on ne va pas rentrer chez tout le monde à n'importe quel moment sans qu'il y ait le juge comme ça ». Et donc, c'est compliqué. Donc, vous voyez, trois étages, chers auditeurs, la grande loi symbolique, elle est intériorisée. Moi, je dirais, le plus souvent, c'est la loi de l'amour. Hein. C'est la grande invention philosophique du christianisme, à mon avis. Puis ensuite, de temps en temps, c'est simple pour les lois. Tout le monde est bien d'accord. On impose à tout le monde de mettre sa ceinture de sécurité. On va pas en parler des heures parce qu'on sait que ça sauve des vies, point. Et puis, de temps en temps, et là, on est en train de discuter là-dessus. Et là, Gabriel, j'aimerais bien t'entendre. De temps en temps, c'est compliqué. Il y a du conflit parce que ou on ne sait pas, ou parce qu'on est dans un questionnement éthique. Ça va, j'espère que les auditeurs arrivent à suivre.
Oui, alors, le questionnement, pour moi, il est à double entrée par rapport à ce que tu disais, Olivier. Le premier, c'est le pouvoir élu et est-il légitime pendant la période où il est en action, en légitimité précisément d'un certain nombre de choses, d'endosser la diversité de tout ce qu'il recouvre au niveau de la base, de la population, pour justifier de telle ou telle position sans concertation aucune. C'est-à-dire qu'en fait, les juges et partis. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me paraît vraiment intéressant, c'est de dire que, à travers les exemples que vous donnez, finalement, c'est les caractéristiques du groupe sur lequel la loi, et en particulier celle qui est produite par le pouvoir, agit, c'est ce groupe-là qui est, je dirais, le référentiel par rapport à quoi la loi justifie ou non sa pertinence. Et dans ce groupe-là, on peut voir effectivement que c'est les caractéristiques avec lesquelles on peut définir ce groupe, c'est des caractéristiques qui sont, on en a parlé, scientifiques, ethnographiques, religieuses, en tout cas qui tiennent à une culture ambiante. C'est ces caractéristiques du groupe-là qui ne sont pas explicites, mais qui projettent sur le pouvoir la nécessité d'aller vers telle ou telle orientation.
Pourquoi tu dis pas explicite ? Parce que j'ai l'impression, par exemple, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'état d'urgence ou pas, c'est relativement explicite, c'est-à-dire qu'il y a une réalité pénible aujourd'hui, qui est celle du terrorisme, enfin d'attentats à répétition, et donc il va y avoir des lois, ou il y a des lois en cours de fabrication qui sont relatives à cette réalité pénible-là. En fait, la loi, elle est très contingente et sans doute quand même souvent compréhensible. C'est peut-être même là, en l'occurrence, plus compréhensible que l'exemple que Dominique donnait sur la ceinture de sécurité. Parce que sur la ceinture de sécurité, je ne suis pas certain que tout ait été extrêmement bien expliqué. Je me rappelle, ça devait être au milieu des années 70, lorsque la ceinture à l'avant a été rendue obligatoire. Il y avait des grandes affiches avec un torse, la ceinture devant et puis un grand slogan. Juste un slogan extrêmement simple sur l'affiche qui était « bouclé là ». Je ne sais, c'est pas absolument certain que l'invitation au dialogue y ait vraiment été. Mais, bon.
mais au risque de paraître un petit peu froid par rapport à ce que tu viens de dire, Olivier, moi je trouve que ça n'est pas justement suffisamment explicite. C'est-à-dire qu'on a des enjeux qui se recouvrent et dont certains servent d'alibi à d'autres. Derrière, s'il est complètement justifié effectivement de se protéger par tous les moyens du terrorisme, il est quand même ambigu à un moment donné de laisser planer un doute sur le fait que des personnes qui sont qui viennent en France fuyant leur pays sont potentiellement des risques. Il faudrait effectivement cerner beaucoup plus précisément le moment du risque sans assimiler ou stigmatiser cette population de migrants à des terroristes potentiels.
Oui, il n'y a pas de loi là-dessus quand même.
Il n'y a pas de loi, mais justement, cette loi non dite, je dirais affleurante, qui laisse apparaître dans une opinion publique, dans une forme diffuse, ce n'est pas une loi, c'est ce que je disais, pas forcément explicite. Elle génère à ce moment-là plus d'ambiguïté. Parce que derrière une loi, qu'est-ce qu'on cherche finalement ? On cherche un principe d'amélioration, d'évolution et sans doute possiblement de cohésion. De cohésion dans le mieux vivre ensemble. Bon, et bien là, paradoxalement, on est en pleine ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, oui... Voilà.
Alors, moi, j'essaye de reprendre ce que tu as dit en m'interrogeant. Qu'est-ce que dit Gabriel ? Il me semble que, dans ce que j'entends, tu es en train de dire qui dit la loi ? Qui parle ? D'où est-ce que parle celui qui va dire la loi ? Ensuite, quand une loi est envisagée, comment elle est proposée ? Comment elle est diffusée ? Comment elle est explicitée ? Et est-ce que, au fond, les critères ensuite de diffusion, puis de mise en scène de la loi, reposent sur une sorte de contenu qui ferait consensus et qui appellerait au consentement, hein ? Ces deux mots, à mon avis, sont différents et sont très importants. Moi, je suis très, très partisan du consentement et je suis beaucoup plus... je me tiens à distance de la notion de consensus qui me paraît discutable. Donc, il me semble là... il me semble qu'on aborde peut-être un autre espace qui est la question du passage d'une loi explicite argumenté et dont il y aurait une forme de consensus pour dire qu'elle est valide, et donc une invitation au consentement, à la notion d'une loi non dite, et il me semble que là, c'est la question de la norme que tu poses. C'est-à-dire, la norme serait finalement une loi implicite, extrêmement, extrêmement puissante, dont non seulement personne ne dirait jamais rien, mais dont on ne parlerait pas sur le fond, finalement, du côté de ce qui la légitime, de ce qui la rend nécessaire, du fait qu'elle peut, par exemple, puisque tu l'as redit tout à l'heure, favoriser l'entre-soi, favoriser la cohésion sociale, etc. Donc, et puis, à contrario, elle pourrait être éventuellement normative dans le sens coercitif, c'est-à-dire elle pourrait, au fond, empêcher chacun d'exprimer sa propre liberté.
Oui, alors... Là, du coup, on est au pied d'une question que je me posais là, sur la précédente émission et qu'on n'a pas nécessairement développée, mais que je souhaiterais qu'on échange quand même un petit peu. C'est sur la caution, finalement, presque psychanalytique que la société met derrière, en fait, un certain nombre de comportements de conformité.
Oui, parce que c'est vrai, sur la question de la norme, je suis d'accord avec vous deux, hein, c'est-à-dire que celle-là peut être plus difficile à approcher, enfin, en tout cas moins dite, parce que l'intérêt de la loi, en tout cas encore une fois de la loi qui est écrite, c'est qu'elle suppose nécessairement un débat, c'est-à-dire que même si on n'en comprend pas chacun d'entre nous tous les attendus à chaque fois, il y a quand même toujours un débat au sein... des assemblées législatives, et puis ces assemblées tiennent à disposition même les minutes des débats. C'est-à-dire qu'on peut lire l'intégralité des arguments échangés, des raisons pour lesquelles cette disposition était adoptée, telle autre rejetée, telle autre encore modifiée, etc. etc., etc. On peut comprendre les lois, enfin, on a toujours théoriquement les moyens de les comprendre, même si ça peut supposer parfois pas mal de travail, parce qu'il y a des lois quand même un peu techniques. Mais bon, bref, c'est le sens même d'ailleurs de l'idée de nul n'est censé ignorer la loi, ni l'ignorer, ni même ignorer les raisons pour lesquelles elle est en vigueur à un moment, que ce soit des lois évidentes, que ce soit des lois plus complexes, moins simples à appréhender, comme le disait Dominique tout à l'heure. Mais alors, c'est vrai que sur la norme, d'abord la norme, en plus, je crois qu'il faut vraiment travailler le sujet, parce que des normes, il y en a énormément. Il y a aussi des normes écrites, par exemple. Il y a aussi des normes qui sont issues des lois, par exemple. Des normes d'équipement automobile. Par exemple, une automobile doit toujours avoir des clignotants. C'est une obligation, c'est une norme. Ce n'est pas écrit dans une loi, mais ce sont des normes de fabrication qui font qu'un véhicule peut être admis à la circulation ou pas. S'il n'y a pas de clignotant, ça peut faire des tours de circuit, circuit fermé, mais ça ne peut pas rouler sur la voie publique. Bon, voilà. Il y a ces normes-là.
Pardon. Mais il y a une norme qui renvoie à une idée statistique, et il y a une norme qui renvoie à une idée affective. La norme statistique, c'est les températures normales du mois de juin sont 2. Ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a rien de normal ou de pas normal. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les températures habituelles du mois de juin, ce n'est pas moins 15 degrés. Voilà. Et quand il fait 20 degrés le 5 janvier, on dit que c'est des températures pas normales. Donc là, il s'agit d'une notion uniquement statistique ou une notion d'habitude, même si, rappelez-vous, on emploie une loi. Et on pourrait presque dire, de manière humoristique, mais quoi, il fait 5 degrés, on est le 4 juillet, que fait le gouvernement? On pourrait dire. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement est un garant des lois, cette température n'est pas normale, que fait le gouvernement?
Voilà. C'est pas une loi juridique. Ouais.
De temps en temps, on le dit de manière humoristique, bien évidemment. Troisième élément qui me semble important, c'est la dimension affective. C'est-à-dire, sur le plan des relations entre les gens, il est normal, par exemple, de dire bonjour. Il est normal de dire merci. Et on voit bien que dans certaines circonstances, et dans un bon nombre de circonstances, ces normes-là fluidifient les liens, font de la relation. Mais par rapport à ta question autour de la psychiatrie ou de la psychanalyse, on peut en effet s'interroger en se disant, est-ce qu'il n'y a pas là une norme implicite qui peut être dite par des gens de pouvoir, les gens de pouvoir pouvant être les intellectuels, les politiciens, les médecins, les enseignants, les universitaires, etc., qui vont dire...
Les experts.
Et les experts, au fond, finalement, les experts. Alors moi, je veux bien vous écouter un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites, là, de cette norme, au fond, implicite, qui aurait probablement une certaine forme de fonctionnalité, mais dont, finalement, la perspective ou la finalité serait d'être dans une sorte de lieu commun, et éventuellement d'exclusion de la diversité ou même de l'altérité, pourquoi pas, au fond, si je provoque un peu.
Alors, moi, j'ai fait
on remet en question un fondement particulier de la loi. J'ai dit ça pour qu'on revienne à notre sujet d'origine.
Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai besoin, moi, de me situer par rapport à ce que je vais entendre et ce qui va être dit. C'est que, à partir du moment où on dit que les lois sont dans l'optique du bienfait du collectif, et en principe, on devrait pouvoir le dire. Elles ne vont pas dans le fait de détruire, mais plutôt dans le fait d'amener de la cohésion. Je remarque, comme on l'a dit pour tout à l'heure pour le tabac, un retard à l'allumage entre le moment où, effectivement...
C'est le cas de le dire pour le tabac, oui.
Tout à fait. Où le moment où on allume... je dirais par la connaissance, le problème, ou l'éclair, et le moment où, effectivement, on éteint sa cigarette.
Bon. Et à ce propos-là, on peut vraiment prendre l'exemple de Servier, puisqu'actuellement, il y a son procès, où il est absolument évident que les laboratoires Servier ont déployé une énergie absolument considérable pour convaincre tous les gens qui étaient décisionnaires en mentant de manière absolument éhontée.
Tout à fait. Alors, s'il est vrai que, par exemple, j'essaye de passer un mur, je me jette contre le mur, je ne vais pas pouvoir passer ce mur. Donc, mon comportement, il est anticipable. Franchement, carrément. Sur un plan plus ouvert, plus nuancé, avec je ne sais pas, non pas parce que je ne peux pas le comprendre, mais parce que je ne sais pas sur quel appui je peux avoir prise pour anticiper l'effet, finalement, d'une loi sur un groupe humain sur lequel, effectivement, il a matière à s'appliquer. Et cette question, tant qu'on ne l'aura pas résolue, on va pérenniser le fonctionnement du système, c'est-à-dire, en fait, attendre que le problème apparaisse pour générer la loi qui mettra un certain temps à produire effectivement un résultat positif et à être intégré comme finalement l'arrêt de fumée a pu l'être. C'est pour gagner du temps, parce que je trouve que l'humanité perd beaucoup de temps.
Alors est-ce que c'est possible toujours? Parce que moi je ferais le crédit quand même à une majorité des législateurs d'avoir anticipé, de penser que leur loi va avoir des effets positifs. Dans certaines circonstances, peut-être qu'on ne sait pas, hein, il me semble. Peut-être qu'on ne sait pas. On ne sait pas.
Est-ce que tu peux me donner un exemple, là, du coup ?
Moi, je peux vous en donner un.
Alors, vas-y.
Qui est issu de mon métier, c'est la loi relative au prix du livre.
Ouais, ouais.
Ça, c'est une loi donc, qui fixe le prix du livre. Je ne vais pas en donner les détails, mais en gros, c'est ça. Tous les livres sont au même prix partout en France. C'est une loi qui date de 1981. Beaucoup de gens étaient contre cette disposition pour plein de raisons diverses et variées, dont beaucoup d'ailleurs étaient légitimes, et du coup a été prévu d'emblée dans les discussions à l'Assemblée nationale qu'il y aurait une évaluation de la loi rapide. Il n'y a pas eu d'évaluation rapide, il y a eu une évaluation, mais au bout d'un temps relativement long, qui a conclu que les effets de cette loi étaient globalement très positifs. Mais en effet, rien ne le prouvait de manière absolue. De la même manière, il y a des pays où il n'y a pas de prix fixé sur le livre. Et on peut très bien établir des constats relativement positifs aussi. Et simplement, ce ne sont pas les mêmes constats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la même chose que lorsqu'il y a une loi qui est établie dans un cadre de rapport à une réalité nouvelle, émergente, contingente, une loi contingente. C'est ça, la loi relative au prix du livre est une loi contingente, comme les lois autour de l'état d'urgence. Il n'y a rien d'autre de comparable entre les deux, évidemment, mais c'est des contingences liées à des réalités à un moment. Et en fait, c'est ce qui est le plus désirable par une majorité à un moment de législateur qui va l'emporter. C'est pas encore une fois quelque chose d'une vérité. Si on se replace dans, par exemple, on revient 50 ans en arrière, est-ce qu'il y a 50 ans on se posait la question de légiférer sur le port du voile? Non, c'était pas un fait existant dans la société. C'est lorsque le fait émerge, existe, que la loi contingente va s'en occuper. Et cette loi contingente, eh bien, elle va encore une fois procéder d'un équilibre, d'un rapport de force. C'est ceux qui désirent, qui sont les plus nombreux, telle option, qui vont l'emporter. Mais je pense vraiment que sur la question du législateur, lorsqu'il n'y a pas de connaissances avérées, lorsqu'il n'y a pas de certitude morale, lorsqu'il n'y a pas une forme de consensus extrêmement partagé, eh bien, il y a toujours un doute sur la loi. De fait, même, il y a des lois aussi qui sont assez amusantes. On en a parlé, je crois, la dernière fois rapidement, mais la loi sur l'interdiction du port du pantalon par les femmes, elle a été abrogée il y a quelques années seulement.
Ah bon ?
Il y a, 4-5 ans.
Ah bon ?
Voilà. Donc, cette loi sur l'interdiction du port du pantalon par les femmes était tellement mauvaise qu'elle n'était plus respectée et que personne n'aurait imaginé pénaliser, justement, les contrevenantes. Depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc on a encore une fois un exemple de loi qui ne repose pas sur une vérité, mais sur une contingence, sur un état de la société à un moment donné, et un état majoritaire à un moment donné.
Mais peut-être faudrait-il à ce moment-là se pencher plus directement et plus explicitement sur les critères de sens de la société sur laquelle nous évoluons, en faisant du surf, effectivement, sur les vagues de l'émotion et de l'affectif, pour pouvoir mieux canaliser, finalement, par du raisonnement et par des arguments, les lois qui peuvent apparaître à l'intérieur de certaines personnes, et je m'y mets pour certaines d'entre elles, un non juste de mon juste à moi, par rapport au juste d'une justice transversale et collective que je souhaite effectivement respecter, mais qui quelquefois piétine largement mon juste à moi.
Oui, bien sûr. Et bah, d'ailleurs, c'est pas du tout la même chose quand tu sur les deux des exemples dont on a parlé, sur le médiator qui repose sur un mensonge, donc là qui est pénalisable, etc. Les choses sont extrêmement claires. Ou sur le traitement de tout un tas de troubles de la personnalité en psychiatrie, dont on décide que certains sont acceptables et d'autres inadmissibles, mais c'est pas toujours les mêmes aux mêmes époques non plus.
Juste pour terminer cette émission qui, j'espère, vous aura intéressé dans l'échange qu'elle a produit, vous êtes tous les deux psychanalystes. Et je voudrais savoir quelle position personnelle vous avez par rapport à la norme.
Moi, pour moi, c'est vraiment extrêmement simple. C'est-à-dire, dans une approche jungienne, l'organisateur de la psyché, c'est le soi. C'est-à-dire une sorte d'instance qui dépasse et qui transcende au fond le moi, qui est dans une sorte de relation dialectique avec le moi et qui vient l'interroger du côté du sens. Donc moi, mon travail, je ne pourrais jamais imaginer d'avoir le moindre discours normatif, à une petite expression, exception près que je vais signaler après, le moindre discours normatif par rapport à ce que me raconte un analysant ou un patient. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est d'accompagner l'émergence à l'intérieur de sa conscience de ce que son soi va pouvoir lui proposer. Et d'ailleurs, le soi propose quelque chose qui, à mon avis, est toujours du côté de la vie, c'est vivant, mais ça n'est pas toujours du côté du bon pour l'individu. C'est-à-dire, il peut y avoir du côté du bon ou du côté du mal, ou en tout cas que les conséquences de ce que propose cet organisateur inconscient qui est le soi peuvent être, les conséquences peuvent être extrêmement délétères pour le sujet. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important. La seule petite exception, c'est lorsque j'ai le sentiment que la personne se met dans un état de danger. Voilà. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas un discours normatif, je lui parle de mon ressenti.
Je corrige juste, je ne suis pas psychanalyste, parce que pour être psychanalyste, il faut l'exercer, exercer l'art, et je ne le fais pas. Je vais plutôt parler en tant que libraire, du coup, parce que je pense que c'est une position qui sera plus complémentaire de celle de Dominique, sinon, je n'ai rien à redire, évidemment, à ce que tu viens de dire, Dominique, ou bien au contraire. Ce que je dis en tant que libraire, c'est que les normes, certes, il faut des accords collectifs, il faut des terrains partagés, des terrains communs, un imaginaire commun, voilà. Je crois simplement qu'il faut toujours maintenir la possibilité que les discours alternatifs à ces normes-là existent, puissent être consultables, puissent être lus, par exemple, en tout cas disponibles, de manière à ce qu'on ne commette jamais l'erreur de considérer que l'exercice de la raison consiste en le fait d'avoir raison, de manière absolue. Pas du tout, on n'a jamais raison du côté de la loi, en tout cas de manière absolue. Il y a toujours des moments, des contestations possibles, des positions alternatives possibles. Il faut qu'elles continuent toujours à exister, à côté de la règle qu'il convient à un moment donné de respecter, évidemment.
Eh bien voilà, je ne sais pas si cet échange vous aura permis d'accéder à des arguments qui seront convaincants auprès du gendarme qui vous arrêtera parce que vous avez dépassé la bande du stop sans vous y arrêter 3 secondes. Mais si tel était le cas, eh bien, finalement, nous n'aurions pas atteint notre objectif.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.